Et voilà, midi 10, c'est le plat de résistance sur la Clé des Andes. Aujourd'hui, dans notre émission, on s'intéresse à l'actualité du quartier de Bacalan autour du nouveau numéro du journal de Bacalan qui vient de sortir. Et puis en fin d'émission, il y aura les Clés de l'écho qui nous seront données par Jean-Marie Arribé. Et enfin, à 13h, Histoire de voir, Histoire au pluriel, vous fera entendre ou réentendre des échos des rencontres autour des exils qui avaient lieu la semaine dernière à Bordeaux. On commence avec quelques infos et d'abord non au choc des savoirs, oui au choc des salaires, c'est le mot d'ordre de la mobilisation aujourd'hui dans l'éducation nationale. On en a entendu parler dans le journal de RFI, à l'appel des syndicats enseignants de la FSU, FO, CGT, Solidaire, également la CNT et l'Union étudiante. Mobilisation donc dans l'éducation nationale, mais aussi plus globalement dans les services publics, dans la fonction publique, pour l'augmentation des salaires, des créations de postes, la baisse de la précarité et l'amélioration des conditions de travail. On en dit un tout petit mot avec au téléphone Mika. Salut Mika.
Oui, salut Baptiste.
Tu es membre du syndicat Sud Santé Sociaux. Toi, tu travailles à l'hôpital de Libourne. Peut-être dire un mot voilà, sur cette mobilisation également de la fonction publique et notamment des hospitaliers aujourd'hui.
Alors, merci de nous donner la parole. Alors, je suis avec deux camarades en plus de l'éducation, Sud-Éduc et Solidaire Finances Publiques à mes côtés. Donc, si tu as des questions à leur poser, n'hésite pas. Donc oui, au niveau de l'hôpital public, les revendications, eh bien, elles tournent bien évidemment autour des salaires, puisque nos salaires sont gelés depuis, le point d'indice en tout cas est gelé depuis plus de 10 ans. Et également au niveau de la précarité de nos emplois, nous dans la fonction publique hospitalière, au niveau national, la précarité des emplois tourne autour de 20%. Donc, et autre
la précarité des emplois, comment vous la calculez? Ça veut dire quoi, 20% d'emplois précaires?
Comment?
20% d'emplois précaires, quand tu dis la précarité touche 20% des emplois, ça veut dire quoi? C'est quoi concrètement ces conditions de travail-là?
Eh bien, c'est des CDD en fait, des agents qui sont en CDD alors qu'ils occupent des emplois vacants et budgétés, pérennes. Or, dans la fonction publique, il faut savoir qu'il y a un article du statut de la fonction publique qui précise qu'un emploi vacant en pérenne doit être occupé soit par un titulaire, soit par un stagiaire. Et le stagiaire, il faut savoir qu'il a un an de période probatoire qui peut être rallongé de 6 mois de plus, voire d'un an de plus. Donc, un an à 2 ans pour faire ses preuves dans la fonction publique. Nous, on part du principe que c'est bien suffisant et qu'un salarié contractuel doit pas occuper, ou en tout cas, il doit être passé stagiaire immédiatement.
Mmh. Voilà. On sait que ça fait des années, notamment la crise du Covid avait révélé les fragilités de l'hôpital public en France. Depuis, beaucoup de souffrances, de mal-être a été exprimé de la part des hospitaliers. Ça s'améliore pas ces derniers mois, tout ça, Mika?
Non, ça s'améliore pas du tout. On voit de plus en plus de scandales au niveau des urgences où les usagers sont soit laissés à la porte, voire même pire, décèdent suite à un défaut de prise en charge. Donc, bien évidemment, ça nous scandalise, ça nous inquiète énormément. Et puis, au niveau des fermetures de lits, on a dans nos établissements beaucoup de services qui ferment, voire ou aussi des fermetures de lits par manque de personnel soignant. Voilà. Donc on veut plus de postes, plus de moyens, plus d'argent pour l'hôpital public. Maintenant, j'ai mes collègues à côté de l'éducation et des finances publiques qui ont peut-être aussi des choses à rajouter dans leur secteur.
Ouais, alors je précise juste que vous êtes en direct depuis, je pense, le parvis de la préfecture de la Gironde à Bordeaux, où il y a un rassemblement là depuis 12 heures avant un départ en manif. Et ben oui, alors passe le téléphone à tes camarades du côté de l'éducation. Donc on le disait, grosse mobilisation contre le choc des savoirs et pour un choc des salaires. Bonjour et merci de vous présenter avant de prendre la parole.
Bonjour, je m'appelle Amaury, donc je suis prof en collège à Bellecy, à Bordeaux, syndiqué à Sud Éducation. Donc effectivement, pour nous, les revendications, elles sont les mêmes que celles pour toutes les fonctions publiques. On a les mêmes problèmes de salaire qui sont pas suffisants, les mêmes problèmes de précarité aussi avec l'augmentation des contractuels à tous les niveaux. C'est pas forcément que pour les profs. On pense aussi aux AED, aux AESH, aux secrétaires, personnels médicaux, etc., qui en plus d'avoir des contrats précaires, sont souvent à temps partiel, ce qui aggrave encore plus leur niveau de vie. Et on manque clairement de personnel aussi à tous les niveaux. De la même manière, on n'est pas assez nombreux pour fonctionner. Et là, effectivement, l'actualité pour l'éducation, c'est donc notamment ce choc des savoirs avec ces groupes de niveau qui veulent nous imposer en français et en maths pour les 6e et 5e à partir de l'année prochaine. Et donc, nous, ça nous pose d'énormes problèmes. Le premier, et c'est clairement le plus important, c'est qu'ils vont nous obliger à trier encore plus nos élèves qui sont déjà regroupés par secteur vu la localisation de leur logement. Mais là, il va falloir qu'on fasse des groupes de niveau en stigmatisant encore un peu plus les élèves. Et tout ça va se faire à moyen constant. Donc, ça veut dire qu'on va fermer des groupes en langue, des groupes en sciences, etc. On n'aura pas les moyens clairement de fonctionner avec ça, ce qui est vraiment très très problématique.
Alors on se rappelle que c'était début février, je crois, il y avait déjà eu 3 jours de grève sur ces questions-là dans l'éducation. Là il y a à nouveau 3 jours, puisqu'il y a aujourd'hui, demain et après-demain, si j'ai bien suivi, il y a un appel à la grève de la part des syndicats. Est-ce que vous avez l'impression que ça met quand même la pression sur le gouvernement, sur Gabriel Attal, cette mobilisation et la manière dont j'ai l'impression qu'aussi le sujet fait l'unanimité et tout le monde se rend bien compte des effets que pourrait avoir cette réforme, Amaury ?
Donc oui, au niveau des collègues, effectivement, il y a une unanimité sur les problèmes, sur les méfaits de ces réformes. Maintenant, on va tout faire sur ces 3 prochains jours et plus s'il y a besoin pour aller mettre la pression maximum à Attal et à tout le gouvernement. Parce que toutes ces réformes-là qui ont été nommées, on pourrait les allonger, mais elles sont vraiment problématiques. Je pense notamment au lycée pro. Il y a plein de choses à faire. Il faut vraiment qu'on mette tout ce qu'on peut, toute notre énergie pour avoir de meilleures conditions de travail pour nous. Et bien entendu, on pense en priorité aux élèves, comme on pense aux patients dans l'hôpital public, on pense à tous les usagers dans tous les services publics pour que tout le monde puisse avoir accès à ces services publics de qualité et partout.
Et notamment aussi avec les parents d'élèves, puisqu'il me semble que jeudi, si j'ai bien compris, il y aura des actions devant les établissements avec la complicité et le soutien des parents d'élèves, c'est ça ?
Effectivement, on est en contact avec les fédérations de parents et les représentants de parents dans les différents établissements pour effectivement mener une opération d'établissement mort, je dis. Il y en a déjà plusieurs établissements qui se sont déjà manifestés pour le faire. On va continuer de recenser ça dans la journée et voir combien on est pour pouvoir avancer. Et bien entendu, on a besoin du soutien des familles qui sont bien entendu les premières concernées parce que c'est quand même l'avenir de leurs enfants qui est en jeu ici.
Merci beaucoup Amaury. Tu peux passer le combiné à l'autre camarade donc de Solidaires Finances Publiques. Peut-être un petit mot sur dans le reste de la fonction publique et notamment les finances publiques. Comment ça se passe et pourquoi vous êtes mobilisé aujourd'hui ?
Alors Patrick, moi je suis inspecteur des finances publiques. Effectivement, je rejoins mes camarades sur la question de l'indemnitaire et des salaires. On entend beaucoup dans les médias que le salaire moyen à la fonction publique, c'est 2400 euros. Je pense qu'on oublie très vite toutes les catégories C et B pour qui la fonction publique court après le SMIC. En rajoutant un peu d'indemnitaire pour se retrouver juste au niveau du SMIC, certains d'entre eux, notamment région parisienne, dorment dans leur voiture, faudrait pas l'oublier. On a aussi des collègues qui sont obligés de faire un boulot au noir à côté pour essayer de survivre. Ça, faut pas l'oublier. Et les questions de salaire sont directement en lien avec l'attractivité pour la fonction publique. On s'aperçoit pour la première fois chez nous, aux finances publiques, qu'on a beaucoup de mal à recruter et que ce n'est pas étranger à cette question d'indemnitaire, sans parler de l'intérêt pour nos missions et la perte de sens qui est liée. Aux finances publiques, il ne faut pas oublier qu'on est là pour ce bien qui nous est commun et notamment le bien qui est celui de ceux qui n'ont rien d'autre que cette fonction publique. On a vu notre réseau diminuer comme peau de chagrin au fur et à mesure des années, nos horaires d'ouverture aussi, et pousser tous les usagers vers la dématérialisation, vers Internet, alors qu'il y a 20% des Français qui n'ont pas accès à Internet ou qui ont mal accès à Internet. Et nous aussi, on rencontre cette problématique d'appel aux contractuels. Évidemment, on n'a rien contre l'emploi, mais on est là pour notamment les défendre aussi. Mais rien ne remplace un agent qui est formé techniquement pour répondre à tout le monde, en fait, sur ces questions de fiscalité qui sont très complexes et pour lesquelles il y a besoin d'avoir une réponse de proximité et de qualité. Et aujourd'hui, c'est ce qui manque. Donc on est nombreux dans la rue aujourd'hui pour manifester contre cette inégalité, celle en fait qui touche surtout ceux qui n'ont pas accès, par exemple, à un conseiller juridique ou fiscal, c'est-à-dire la majorité d'entre nous.
Merci Patrick. Peut-être justement un petit mot sur c'est quoi l'ambiance là devant la préfecture. J'imagine que les gens continuent à arriver avant des prises de parole et un départ en manif.
Oui, les gens continuent à arriver. On espère qu'il y aura beaucoup de monde. J'espère que la météo va nous aider pour ça. Mais en tout cas, ça n'influera pas sur la grande colère qui existe aujourd'hui au sein de la fonction publique et pour lesquelles les gens qui travaillent pour cette fonction publique, les agents, continuent à faire leur travail et puis continuent à tomber dans des épuisements professionnels de plus en plus courants et avec un vieillissement de la population aussi, il ne faut pas se le cacher. Et un jour ou l'autre, quand ça s'effondrera vraiment, on s'apercevra à quel point il était utile ce service public. Celui auquel on a fait appel pendant le Covid, justement, comme le rappelait mon camarade, ces fameux premiers de cordée qui sont là et dont on ne reconnaît pas l'utilité, en tout cas, ne serait-ce que à commencer par l'indemnitaire et par le salaire.
Merci beaucoup. Et donc, pour ne pas que ça s'effondre, le rendez-vous, c'est là, en ce moment, devant la préfecture de la Gironde à Bordeaux. Et je précise qu'il y aura à 15h une assemblée générale de l'éducation à la Bourse du Travail et que demain, ça continue avec un rassemblement à 12h devant le rectorat et jeudi, donc, avec des actions devant les établissements. Merci beaucoup, Patrick de Solidaires Finances Publiques, Mika de Sud Santé Sociaux et Amaury de Sud Éducation. Merci beaucoup.
Au revoir. Merci.
12h21 sur la clé des ondes, on continue notre plat de résistance avec quand même deux trois autres infos en bref que je voulais vous donner. Un retour sur la marche sur les violences d'État et le racisme systémique qui avait lieu samedi dernier à l'initiative du CLAP 33 et du réseau Entraide Vérité et Justice. Une centaine de personnes ont défilé à Bordeaux derrière une banderole qui portait les noms des victimes de violences policières. 37 personnes des quartiers populaires ont été tuées par la police en 2023 selon le collectif. Par ailleurs, un communiqué d'un certain groupe d'intervention pour l'extinction des chantiers, ça fait GIEC si on garde la première lettre de chaque mot, qui revendique d'avoir saboté deux machines sur un chantier de l'entreprise NGE, une entreprise de BTP, à côté de la gare de Senon. Je cite leur communiqué, « Nous voulons contribuer à créer un climat de peur pour cette entreprise, responsable du ravage écologique dans le monde et surtout en solidarité à la lutte contre l'A69 dans le Tarn. Nous demandons, comme d'autres collectifs, un moratoire sur la construction de l'autoroute, l'arrêt immédiat des travaux et la relaxe pour toutes les personnes ayant subi la répression ces derniers mois. » Et puis, on profite du retour du beau temps à Bordeaux, mais pendant ce temps, dans l'hémisphère sud, notamment au Brésil, c'est la canicule. À Rio de Janeiro, la température ressentie est montée jusqu'à 62,3 degrés ces derniers jours, notamment dans les quartiers les plus pauvres de la ville. Et au même moment, ce sont des pluies torrentielles qui menacent le sud du pays. Midi 22 sur la clé des ondes et on parle maintenant du journal de Bacalan et de son numéro 84 qui vient de sortir avec ce titre en une. Le 8 mars, c'est tous les jours. Pour parler de ce nouveau numéro du journal de Bacalan, on est avec Christian Galatry. Bonjour Christian.
Bonjour.
Tu es directeur de publication du journal de Bacalan. Vanessa, bonjour.
Bonjour.
Habitante du quartier et membre du collectif Marjolaine Bamboche. Et puis Capucine, bonjour.
Bonjour.
Salariée des Compagnons Bâtisseurs à Clavaux. Alors n'hésitez pas à rapprocher les micros de vous. Ils sont un petit peu loin, un petit peu haut. Pour commencer, peut-être un mot sur ce numéro, ce nouveau numéro et puis ce dossier consacré aux femmes de Bacalan, aux femmes du quartier et autour du 8 mars. Comment il s'est construit ce dossier-là, Christian, Vanessa ? Christian ?
C'est-à-dire, c'est la sortie du journal était prévue le 8 mars, donc ça paraissait une évidence que de réfléchir à donner la parole aux femmes ce jour-là. On ne savait pas trop comment faire, en fait. Et la rencontre avec Marjolaine Bamboche, mais Vanessa va en parler, qui, eux, avaient déjà bien réfléchi à une initiative donc, qu'ils ont présentée le 8 mars, et elle va expliquer, a fait que ça a été un peu la base de cette rencontre et puis du dossier qu'on a voulu présenter et on a trouvé très à propos par rapport à ce que nous voulions faire également.
Tu disais, on ne savait pas trop comment faire. Dans le dossier, il est question du fait que c'est compliqué la place des femmes dans les médias. Comment tu expliques cette difficulté-là ?
Alors déjà, on est tous responsables parce qu'on ne fait pas toujours... c'est une prise en compte qu'on n'a pas toujours dans nos réflexions. On a plein, mais pas toujours. Et là, il y a des moments comme ça où on est un petit peu bousculé et c'est bien, en fait. Donc c'est pour ça que... si on prend le journal Bacalan, on peut dire que il y a une bonne participation féminine dans l'élaboration du journal en même temps. Et je crois que dans les associations de Bacalan, il y a y a aussi une bonne participation féminine. Mais c'est vrai que c'est pas toujours une réflexion, parce qu'il y a pas que ça. Tout ce qui peut faire quartier, il y a le monde associatif, mais il y a pas que le monde associatif, quoi. Et donc à un moment donné, c'est bien aussi de mettre quelques clignotants pour dire attention, on a aussi des choses à faire, et y compris ici, quoi.
Alors Vanessa, peut-être déjà revenir sur Marjolaine Bourboche, c'est qui, c'est quoi ce collectif
Marjolaine. Alors Marjolaine Bourboche, c'est avant tout un collectif d'habitants, moi je suis habitante du quartier avant tout, et c'est un collectif d'habitants du quartier, des parents qui ont, j'en fais partie, mais en tant que membre partiel, on va dire. Et leur volonté, c'est avant tout de créer des moments légers, festifs, qui rassemblent parents, enfants, et voilà, avant tout.
Il y a une petite histoire derrière ce nom, cette figure de Marjolaine Bourboche.
Oui, alors en fait, l'histoire, c'est qu'on s'est souvent retrouvés dans un petit bar de quartier qui s'appelle le Bar Cave, qui était tenu par une femme qui était appelée Marjolaine, qui s'appelait pas du tout comme ça, mais qui était appelée comme ça parce qu'en fait, sur sa devanture, c'était marqué Marjolaine. Et donc, le collectif est né avant tout pour faire vivre la place qui est en face de ce petit bar, où souvent les habitants se retrouvent pour jouer à la pétanque, mais le terrain de pétanque n'était pas terrible. Et donc, ce collectif s'est rejoint, d'autres habitants comme moi et d'autres ont participé à ce projet de rénovation de place. Et donc, du coup, cette place a été rénovée. La volonté du collectif de Marjolaine Bourboche aurait été de baptiser cette place Marjolaine Bourboche. C'est en cours de négociation, je dirais.
Alors, comment ça s'est mis en place ? Donc, c'est Marjolaine Bourboche, le collectif, qui a eu envie de mettre en place des choses autour du 8 mars, cette année ?
Exactement. En fait, le projet est né l'année dernière, moi, je participais à un événement le 8 mars qui avait lieu au Garage Moderne avec une chorale. Et leur idée, c'était justement de mettre en valeur les femmes de Bacalan, parce qu'on s'est tous rendu compte, en tant qu'habitants, que les femmes de Bacalan, enfin, les habitants de Bacalan, avant tout, sont des gens pluriels. Les humains sont pluriels. Et de mettre en avant les femmes de Bacalan et justement toute la diversité de ces femmes en termes d'histoire, en termes de génération, de culture, etc. C'était important. Donc ça n'avait pas pu se faire l'année dernière. Et on s'y est pris un peu plus à l'avance. On en a discuté ensemble parce que moi, je trouve que le projet était chouette et j'avais envie d'y participer. Avant tout en tant qu'habitante, en tant que féministe et en tant que membre du journal de Bacalan. Je trouvais ça important de pouvoir porter une pierre à l'édifice à ce projet.
Alors comment, de quelle manière mettre en avant les femmes de Bacalan ?
Alors l'idée première des portraits était déjà en tête l'année dernière. Comment le faire ? Ça a été compliqué les premiers temps au journal, parce que comment réussir à faire un dossier central ou un supplément sous quelle forme ça allait se présenter ? Il y a eu la rencontre avec Catherine Passerin, qui est la photographe qui a pris les photos de ces femmes, qui est habitante elle-même de Bacalan, qui œuvre dans l'associatif aussi à Bacalan. Et donc en fait, on a eu son regard artistique aussi, mais à la fois, il nous a beaucoup laissé de liberté à nous habitants, à nous membres du journal, pour savoir exactement qu'est-ce qu'on avait envie de voir nous quand on allait ouvrir notre journal. Mmh. Et c'est un peu comme ça c'est. L'intelligence collective a fait le travail.
Parce que, si je ne me trompe pas, il y a aussi, dans le même temps que ces portraits dans le journal, donc le dossier central qui constitue deux portraits noirs et blancs de, j'en ai compté, 48 femmes de Bacalan, il y a aussi une exposition qui a eu lieu au Garage Moderne, c'est ça ?
Oui,
qui est encore
tout à
en
fait.
Place, peut-être ?
Elle est en partiellement en place. On a eu quelques soucis techniques pour réussir à les afficher, mais l'objectif avec le Garage Moderne, c'est justement de pouvoir les afficher de manière plus ou moins permanente sur les murs directement du garage. On a voulu les coller comme un collage sauvage, mais malheureusement, le papier n'était pas là et on voulait mettre en valeur les portraits avant tout et le travail de la photographe, mais ça va être mis en place.
Alors comment ils ont été choisis peut-être ces portraits ? Est-ce qu'ils avaient des photos qui avaient déjà été prises avant, ou bien c'est vous qui avez un peu aiguillé la photographe pour aller vers certaines personnes ?
En fait, ça a été d'abord un travail avec Stéphanie Bautré, qui travaille à la régie et qui est en charge du journal aussi.
Régie de quartier de Bacalan.
Régie de quartier. Et en gros, elle nous a fait une liste d'habitantes, parce qu'elle habite quand même à Bacalan depuis longtemps. Et son travail, ça a été beaucoup de nous donner des noms de femmes pluriels, justement. Donc qu'on puisse avoir des femmes qui ont plus de 100 ans, qu'on ait des jeunes qui travaillent, qui œuvrent pour les jeunes à Bacalan. Donc en fait, on a l'envie première, ça a été de justement que que ça ressorte, ce côté pluriel, encore une fois, par la génération de tout type de femmes, en fait. Qu'on puisse voir que, pour montrer aux gens qui ne connaissent pas beaucoup Baccalan, qui viennent de débarquer, se disent « Ok, Baccalan, c'est ça.
» Christian.
Oui, on a interrogé aussi toutes les associations. Alors, certaines ont répondu et d'autres n'ont pas répondu, mais pour proposer également ces portraits. Voilà. Et ben, ça a été quand même une chouette aventure parce que Catherine Passerin, d'ailleurs, qui aurait pu être là aujourd'hui, mais c'est une photographe professionnelle qui habite Baccalan depuis quelques années, mais qui a encore un studio photo sur Paris. Et aujourd'hui, justement, elle est à Paris, donc elle ne pouvait pas être là. Mais je voulais souligner son travail, à la fois son engagement associatif et culturel dans le quartier, puisque sa première action, lorsqu'elle est arrivée, c'est qu'elle a animé un atelier photo à l'Amicale laïque de Baccalan, et qu'aujourd'hui, elle est aussi coprésidente du Cerisier, donc, qui est un théâtre et un espace alternatif de création culturelle.
Alors, ces photos, elles sont nues, c'est-à-dire qu'il y a... Il y a juste la photo et puis le nom de la personne, un portrait, photo de portrait. Il y a pas de texte. Alors moi, j'avoue que ça m'a surpris au début de me dire, bah, elles sont là, ces femmes, mais on les entend pas parler. Enfin, elles s'expriment pas à ce moment-là. C'est un choix que vous avez eu à ce moment-là.
Alors c'est un choix sans en être un, dans le sens où, pour en avoir discuté avec certaines femmes dont le portrait est dans le journal, certaines se sentaient pas forcément à l'aise de répondre à des questions, à des choses comme ça. Et il aurait fallu faire un choix dans ce cas-là. Et l'objectif, là, c'était de montrer les femmes. Mais pour en avoir parlé avec Catherine Passerin il n'y a pas si longtemps, c'est un projet qui est né là, pour ce 8 mars-là, mais c'est un projet qui va perdurer. Et peut-être, justement, avoir des petites histoires. Et voilà, c'est un projet ce n'est que le balbutiement de ce projet.
Très bien. Dans les 48 femmes, là, il y en a certaines qui ont peut-être une petite notoriété de part, on pense à Stéphanie Beautré de l'Argile Quartier, que tout le monde ou presque, j'imagine, à Baccalan connaît. Il y a des femmes plus connues que d'autres. Est-ce qu'il y a des... moi, en les voyant, je me disais, il y a un truc où on reconnaît des visages importants du quartier, d'autres peut-être qui sont plus anonymes. Est-ce qu'il y a des histoires que toi, tu aurais envie de raconter sur certains de ces visages-là qu'on voit dans le dossier?
Alors, ça en fait, des histoires oui et non... Enfin, oui, forcément, bah, on pense à Stéphanie, on pense à des mamans du quartier qu'on croise tous les jours à l'école, qu'on ne connaît pas finalement, forcément, en fait, mais qu'on croise tous les jours, à qui on dit bonjour tous les jours. Et en fait, de voir leur visage comme ça, mis dans le journal, ça donne envie justement d'aller, de peut-être ouvrir le dialogue et d'aller à la rencontre de l'autre. Et c'est peut-être, en fait, finalement, ce que ça donne, c'est ce que je disais dans l'édito, c'est aussi une manière, en fait, de montrer l'histoire des femmes à travers l'image, mais du coup, peut-être de créer du lien avec les gens en se disant, oui, ah, mais elle, mais je la connais, mais d'où et il y a plein de gens à qui j'en ai parlé, ah, mais j'ai vu machin, ah, mais c'est... Mais je la... et elle fait quoi? Elle travaille, elle vit à Baccalan. Voilà, et ça crée du lien, et c'est ça qui est chouette.
Christian?
Oui, mais ce à quoi on a été attentif, c'est justement cette diversité dont parle aussi Vanessa, parce que on trouve des gens de toutes origines, bien sûr, des gens qui sont, enfin, des dames qui habitent Baccalan récemment, depuis peu de temps, ou d'autres qui habitent depuis longtemps. Des personnes de milieux sociaux très différents, des personnes de notoriété aussi. Notre député, par exemple, a bien voulu poser. Mais aussi, il y a des dames qu'on connaît peu, mais qui mènent des combats, y compris actuellement. Là, Anaïta, là, qui mène le combat des pénichiers au bassin à flot. Donc, outre ce que l'on peut penser du combat lui-même, mais en tout cas, c'est des figures...
Donc, des personnes qui habitent sur les bassins à flot.
Des personnes qui habitent et qui veulent continuer justement d'habiter Baccalan parce qu'ils se battent pour ça. Et donc voilà. Et puis il y a des gens qui sont effectivement plus anonymes, mais qui ont eu envie de figurer parce qu'elles disent aussi leurs mots sur un tas de choses. Donc l'idée qu'évoquait Vanessa, c'est-à-dire de trouver des prolongements à ça, à mon avis, c'est peut-être la partie la plus intéressante qui nous attend, quoi.
Et donc c'est à suivre.
Exactement.
Très bien, bah on attend ça avec impatience. Alors, un petit mot, il y a une autre personne, alors je ne pense pas qu'il y ait sa photo dans ce dossier, mais c'est Roland de Ménard qui est disparu aujourd'hui, Christian, et dont une voix publique a été nommée, a pris le nom de Roland de Ménard.
Alors, on va être, a priori, puisque c'est une décision de la municipalité, qui nous enchante particulièrement au journal de Bacalan, puisque ça a été la première directrice de publication du journal. Ça a été la fondatrice, on peut dire, enfin la cofondatrice de la régie de quartier, donc elle a joué un rôle notoire, et plein d'autres choses dans ce quartier. Donc c'était une personne très engagée, qui jusqu'au bout de sa vie s'est intéressée au sort des Bacalanais et à leurs besoins. On l'a bien connue au journal de Bacalan et au comité de rédaction. On se souvient de ses colères aussi, parce que c'était une forte personnalité qu'on aimait beaucoup, qui est aujourd'hui disparue. Donc elle méritait tout à fait d'avoir une voix à son nom à Bacalan. Ce qu'on regrette un peu, enfin, et là je crois que je me fais le porte-parole de tous les membre du comité de rédaction, c'est le choix de la voie qui lui a été donnée, puisque c'est une petite impasse sans véritablement passage proche des vivres de l'art, et que, bon, on le dit, les symboles ont leur importance aussi, et que c'est pas très bien de choisir une voie comme ça pour honorer quelqu'un qui a marqué par un engagement fort, voilà.
Et que dirait Pierre Remix si on lui a donné une petite impasse
pour le fun.
Alors, il y a plein d'autres choses dans ce nouveau numéro du journal de Bacalan, donc numéro 84, et notamment à la fin, je crois, du journal, il est question des compagnons bâtisseurs et de leur base vie qui s'est installée à côté de la, ou dans la cité jardin, la cité Claveau. Capucine, tu vas nous en parler un petit peu. Comment les compagnons bâtisseurs sont arrivés ici? J'avoue que j'ai découvert ça, je ne savais pas du tout que ça se passait. Qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi les compagnons bâtisseurs sont à cet endroit, Capucine?
Alors, l'association du coup des compagnons bâtisseurs, c'est déjà une association qui lutte contre l'exclusion sociale, contre le mal logement, donc à travers des chantiers, notamment des chantiers d'auto-réhabilitation accompagnés, qui sont donc un peu notre action historique au sein de l'asso. Et donc ça consiste à réhabiliter le logement des habitants avec leur participation et de provoquer une remobilisation. Nous, on est arrivés à Claveau en 2017, je crois à peu près, il y a quelques années, au moment d'un grand chantier de réhabilitation des logements, donc des petites échoppes de Claveau de la cité jardin. Le siège aujourd'hui des compagnons bâtisseurs Gironde est ici.
Et donc, vous êtes venu ici parce qu'il y avait un besoin particulier de rénovation.
Voilà. Et donc, en fait, la base vie, elle s'est construite. C'est une grande base de chantier à la base qui est juste en face de la piscine Tissot, et dans laquelle les habitants venaient pour les réunions des familles, tout au long des travaux et pour pouvoir échanger, rencontrer les médiatrices sociales, bricoler autour des animations, des ateliers bricolage. Et voilà, donc ça a vraiment créé un lien et une émulation de quartier assez inédite à ce moment-là.
Il faut redire un petit mot de l'histoire de cet endroit, de ce quartier, de la cité jardin Claveau. Je ne sais pas qui autour de la table peut en dire deux mots de rapide historique.
Je n'ai pas cette prétention, mais ce qu'on sait, c'est que c'est la cité jardin qu'elle est exceptionnelle, parce qu'il ne doit pas y en avoir d'autres, je crois, dans le coin. Et que,
c'est-à-dire, ça veut dire quoi, cité jardin? C'est quoi qui est exceptionnel?
Alors, c'est le côté ce que disait Capucine, à savoir des petites échoppes, chacune avec leur jardin, quoi. Ouais. Donc évidemment des loyers modérés, puisque c'est géré par Aquitanis. Donc certaines ont été vendues depuis, mais donc c'est totalement exceptionnel ce genre de situation par rapport à des logements à bas coût. L'origine, c'est que ça a été effectivement construit sur une zone notamment qui était occupée par les Allemands et qui avait déjà un peu équipé, on va dire, le quartier pour leurs propres besoins, et qui sont restés. Par exemple, la question de la piscine, et puis il existait aussi une salle des fêtes, mais qui a été détruite au profit de la construction plus récente de la salle Tachou, quoi. Voilà. Donc c'était dans cet espace-là que les choses se sont créées.
Capucine, comment ça se passe alors, l'auto-réhabilitation? Les habitants sont au courant que les compagnons bâtisseurs sont là, il y a la base vie, et ils peuvent venir vous trouver avec leurs besoins de réhabilitation de leur logement?
Alors, sur Clavaux, les chantiers de réhabilitation, ils sont terminés depuis 2019, je crois. Mais aujourd'hui, pour bénéficier d'un chantier ARA, donc de réhabilitation accompagnée, il faut une prescription, soit d'un travailleur social, d'une personne qui fait le lien, parce qu'elle a repéré une situation de précarité dans le logement, de précarité énergétique, etc. Et avec des besoins en embellissement, en travaux, tout type de travaux de seconde œuvre. Et qui sont. Donc ensuite, ces situations, elles sont ensuite examinées en comité technique de suivi. Et après, le chantier se déroule sur plusieurs jours, une dizaine de jours, avec un animateur technique qui dirige finalement. Et puis les habitants, le foyer, la famille, les voisins, si c'est possible. Et puis aussi des volontaires européens. Et donc tout ça, ça fait une joyeuse bande qui vraiment permet la mobilisation et le lien social autour de ce chantier.
Et donc l'idée, c'est bien ça, c'est à la fois faire face à un problème de un besoin dans le logement, un besoin matériel, mais aussi dans une forme de dynamisation, d'inclusion de la personne dans une activité.
Exactement. Mais en fait, dans toutes nos actions, le chantier est finalement un prétexte, une base pour cette mobilisation. Donc, parce qu'on a un autre pan de notre activité qui sont les chantiers d'insertion, donc pour l'insertion par l'emploi. Et donc, c'est finalement la même idée, mais du coup, au niveau de l'insertion professionnelle.
Donc tu disais, les chantiers sont terminés à Clavaux, maintenant vous êtes sur d'autres secteurs sur l'agglomération ?
Oui, c'est ça. Donc à Clavaux, la base vie demeure et on continue notre rôle de création de lien social. On œuvre en ce moment à redynamiser cette base vie et d'y créer des ateliers bricolage. On a un café des bénévoles cet après-midi. L'idée c'est de conserver ce lien qui a été créé durant les années de travaux. Et après, effectivement, on est situé un peu partout sur Bordeaux Métropole. Autour aussi en Gironde. On a la bricole qui est à la Benauge, on a des bricobus qui sont donc des dispositifs plutôt itinérants pour aller dans les zones un peu plus rurales par exemple. Donc on est un peu partout.
Pour faire le lien peut-être avec le dossier La Place des Femmes, les activités de travaux, de bricolage sont plutôt genrées dans notre société, et plutôt la plupart du temps réservées, en tout cas c'est plutôt des hommes qu'on y retrouve. Comment ça se passe, la place des femmes dans ces chantiers d'auto-réhabilitation accompagnée?
C'est ça. c'est assez intéressant cette question justement des chantiers genrés ou du bricolage qui serait surtout réservé aux hommes. En fait, nous, on constate que dans nos bénéficiaires, sur les ARA, d'un côté, les personnes qui vont le plus participer au chantier, en général, ce sont les femmes, ce sont les mères de famille ou parfois des femmes seules.
Parce que c'est elles qui sont plus souvent en précarité?
Et parce que, d'un côté, oui, il y a beaucoup de situations de familles monoparentales, mais également parce qu'en fait, elles vont moins souvent travailler aussi. Donc, elles vont être plus disponibles alors que le mari sera peut-être... Enfin, il viendra aider le soir, mais dans la journée, ce sera elle. On a vraiment beaucoup de situations de femmes qui sont enchantées de ces travaux, qui ont vraiment envie d'apprendre, qui parfois ont tenté des petits travaux de peinture de leur côté, et qu'en fait, quand on arrive, elles disent « mais je veux trop apprendre », et qui derrière, en fait... On a des situations où elles vont poursuivre les travaux toutes seules après, nos travaux forcément sont limités pour que le plus grand nombre puisse bénéficier de chantier. On se limite par exemple à 3 pièces. Eh bien, le reste des pièces, quand on reviendra quelques mois plus tard, il va être fait par la mère de famille ou la femme. Donc ça, c'est assez chouette. Et puis sur nos ateliers bricolage également, qui ont lieu donc chaque semaine, on a des ateliers bricolage un peu partout. On va avoir le plus souvent des femmes qui vont venir à ces ateliers, donc des femmes retraitées, ou sans emploi, ou qui viennent après leur travail et qui vont être absolument ravis de s'initier à ces outils, puisqu'on est vraiment dans une dynamique presque d'éducation populaire, où l'idée c'est qu'on apprenne ensemble, et c'est aussi le rôle des volontaires de montrer qu'il n'y a pas une position descendante d'apprenant et de maître, quoi. On a souvent des témoignages de femmes qui nous disent « Moi, en 40 ans, mon mari ne m'a jamais laissé toucher un marteau, et aujourd'hui, je peux m'approprier ces outils, je peux bricoler. » Donc, on a vraiment une appropriation de ça.
Très bien. Et donc, tu disais, il y a aussi des événements à la base vie avec, je ne sais pas ce qu'on peut annoncer. Tu parlais d'une activité cet après-midi.
Oui, eh bien, chaque mardi, on a le café des bénévoles à la base vie, donc de 16h à 17h30. Donc, l'idée, c'est d'accueillir les bénévoles, de faire le point sur les missions et de se retrouver autour d'un temps convivial. On a aussi des grands jeux en bois. Donc, l'idée, c'est peut-être cet après-midi, vu qu'il fait beau, ça va être de les sortir pour pouvoir jouer. On a des ateliers qui sont aussi animés par nos bénévoles, mais on a un programme auquel on peut se référer sur nos pages Instagram et sur les différents points d'information. Mais voilà, aussi des ateliers bricolage le mercredi matin, le jeudi après-midi. Voilà.
Qui sont ouverts cette fois à tout le monde ?
Oui, c'est ouvert à tous et toutes.
Très bien, merci Capucine. Peut-être deux, trois autres infos qu'on peut retrouver dans le journal de Bacalan. Christian, tu voulais parler notamment des collégiens de Blanqui et du projet Par les vivants, de recherche et de documentation sur la Seconde Guerre mondiale.
Oui, c'est ça. C'est un projet de l'éducation nationale pour lequel se sont inscrits deux professeurs du Collège Blanqui, Olivier Delaveau et Émilie Mercier, pour ne pas les nommer, et qui ont amené dans cette aventure une classe de 3e du collège pour une année de travail, enfin, de rencontres, de recherches, de documentation, pour leur permettre de rencontres également avec des survivants, d'établir un peu un certain nombre d'événements qui se sont passés pendant la guerre et puis d'élaborer un parcours sonore avec tout ce matériel recueilli. Et puis,
parcours sonore qu'on pourra retrouver
a priori, pour l'instant, les choses sont en construction. Alors, le projet, c'était également, tel qu'il est posé par l'Éducation nationale, de s'ouvrir justement à des partenariats, que ce soit dans l'environnement du collège, associatif, etc. Donc, d'où la relation, y compris avec le journal, où on a contribué, on n'est pas les seuls, mais on a contribué à leur donner des ressources, des indications, et on essaye de les accompagner dans l'information sur ce magnifique projet, donc qui va trouver son point d'orgue au mois de mai, avec un beau voyage à Paris, où ils vont aller voir des lieux importants, le mémorial de la Shoah, le camp de Drancy. Ils seront reçus également au Parlement. C'est un projet tout à fait remarquable et sur lequel les enfants... ça fonctionne très bien. Ils ont d'ailleurs, sur le site de notre journal, on trouve le témoignage de certains d'entre eux, justement, par rapport à ce projet. Je vous y invite d'aller voir un peu leur expression, c'est intéressant.
Et oui, parce qu'il y a des petits bonus du journal sur le site internet.
Toujours.
On peut retrouver aussi les 30 ans de l'assaut Gargantua. On avait reçu son président Christian Rocherieux en décembre dans notre émission pour parler de l'aide alimentaire. Et puis la fête du BAC, le Bordeaux Athletic Club, qui fera sa fête donc le dimanche 14 avril à 12h. Un petit mot sur ce qu'est le BAC, le Bordeaux Athletic Club.
Alors,
et sa fête.
BAC, c'est un club de football donc, qui est le deuxième dans l'histoire club français de football, qui est donc. Pour les Bordelais, c'est un peu inimaginable, mais le BAC a existé bien avant les Girondins de Bordeaux. Mmh. Ça, on l'oublie, voilà. Et y a eu des joueurs importants qui sont sortis de ce club, et notamment Roland Tilipski, qui était donc professionnel de football, et dont la veuve vit toujours à 101 ans, à Bacalan, Josette Tilipski, et puis avec d'autres anciens du club, plus jeunes certains, mais ils ont voulu un peu raviver cette flamme, et donc ils ont demandé un peu, ils ont poussé pour que des fêtes qui existaient par le passé revoient le jour, et donc c'est ce qu'ils sont en train de construire. Voilà.
Très bien. Un petit mot ajouté, une annonce, événement, tout ça. On a fait le tour de l'essentiel. Le reste est retrouvé donc dans le journal qui est dans la boîte aux lettres des Bacalanais et Bacalanaises ou sur le site internet du journal, journal-bacalan.fr. Merci beaucoup à vous trois. Capucine, donc salariée des Compagnons Bâtisseurs à Clavaux. Vanessa, habitante du quartier de Bacalan. Et Christian, directeur de publication du journal de Bacalan. Merci beaucoup à vous trois. À dans trois mois.
Avec un dossier sur le sport, a priori. Vu la période des Jeux Olympiques, on parlera du sport à Bacalan.
Très bien, eh ben, on a hâte de lire ça. Et puis on va terminer cette séquence en écoutant l'agenda culturel des quartiers de Bordeaux-Nord, l'agenda de Bordeaux-Nord que j'ai oublié de vous diffuser tout à l'heure et qui nous est présenté comme chaque semaine par Jennifer. Bonjour Jennifer.
Bonjour aux éditeurs de La Clé des Ondes. Le collectif Bordeaux-Nord vous informe de l'actualité culturelle de cette semaine sur les quartiers nord de Bordeaux. Commençons avec le Globe Théâtre, qui programme la compagnie Rumeur des Vents avec son spectacle jeune public, L'Heure Blanche, séance ouverte aux familles aujourd'hui mardi 19 mars à 19h. La Maison du Jardinier au Parc Rivière propose gratuitement plusieurs activités dans le cours de la semaine, dont un atelier de bougies en cire d'abeille mardi 19 mars à 14h, un atelier sérigraphie à l'encre végétale jeudi 21 mars à 14h30 et un atelier de fabrication de Monsieur Tête de Gazon samedi 23 mars à 10h. La Cité du Vin, quant à elle, organise une conférence en entrée libre avec le sommelier de renom Olivier Poussier mardi 19 mars à 19h. Le Centre d'animation du Grand Parc propose un goûter musical mercredi 20 mars à 16h30 en entrée libre. L'association Les Petits Tréteaux organise tous les jeudis soirs de 18h30 à 20h30 des ateliers de théâtre gratuits ouverts à toutes et tous. Rendez-vous jeudi 21 mars au Centre social du Grand Parc. Le Musée de la mer maritime reçoit le Festival international du documentaire maritime du 21 au 24 mars, gratuit sur réservation. La bibliothèque de Bordeaux-Lac propose diverses animations, un cours de peinture vendredi 22 mars à 14h, un cours d'échecs et une initiation au Mahjong samedi 23 mars à 14h. À la bibliothèque de Bordeaux-Lac toujours, venez aussi profiter d'un brunch poétique avec Laurence Lépine de 11h à midi le samedi 23 mars. L'association Interlude propose une soirée jeux de société au Centre social et familial Bordeaux-Nord vendredi 22 mars de 18h30 à 21h30, focus sur les jeux de dés. Les entractes solidaires s'invitent au Garage Moderne pour une bonne cause. Rire, magie et musique au rendez-vous, vendredi 22 mars à partir de 19h. Le Pont Tournant vous invite à venir découvrir le travail de la compagnie Four Cats avec sa pièce de théâtre Barbe Bleue, les 22 et 23 mars à 20h30 et le dimanche 24 mars à 16h. La galerie Arrêt sur l'image expose l'artiste photographe Olivier Metzger, visible jusqu'au 23 mars. Et pour finir, l'association Au Grand Parc SDF s'associe à la salle des fêtes du Grand Parc pour la projection mensuelle d'un film, ce dimanche 24 mars à 15h. Il s'agira du film « Et maintenant, on va où ?», comédie romantique de la réalisatrice Nadine Labaki. Voilà, c'est tout pour cette semaine. À bientôt sur bordeauxnord.org.
Merci beaucoup Jennifer, à la semaine prochaine pour cet agenda de Bordeaux-Nord, à trouver aussi sur le site bien sûr de Bordeaux-Nord. Et à 12h52 sur la Clé des Ondes, on va enchaîner avec la chronique écho des clés de l'écho.
Le désarroi de parents découvrant que leur ado est de droite et qu'il adhère aux éditos de Dominique Seul.
Il n'y a pas d'alternative avec la réalité.
Il n'y a pas d'autre choix.
Il n'y a pas d'alternative.
Ça passe pas bien ça, cette idée-là.
Et cette semaine, c'est Jean-Marie Haribet qui nous donne les clés de l'écho. Bonjour Jean-Marie.
Bonjour.
Tu es économiste, ancien enseignant à l'université de Bordeaux. De quoi tu nous parles aujourd'hui ?
Eh bien, je voudrais consacrer cette chronique à inciter les auditeurs de la Clé des Ondes à venir assister à la présentation du livre que vient de publier Jésabelle Coupé-Soubiran avec deux autres collègues, Pierre Delandre et Augustin Cerciron, sur le pouvoir de la monnaie. Et il y aura une discussion à laquelle je vais participer et je voudrais donner aujourd'hui quelques éléments préparatoires à cette discussion et inviter donc tout le monde à venir assister à la présentation de ce livre. Donc, nos trois collègues là publient donc Le pouvoir de la monnaie, sous-titré Transformons la monnaie pour transformer la société. Pourquoi ? Parce que selon les modes de création de la monnaie bancaire, enracine la monnaie dans la dette et empêche de financer la transition sociale et écologique. Donc, ils formulent une proposition de monnaie qu'ils appellent volontaire sous forme de subvention pour financer les investissements de transition qui, bien sûr, ne doivent pas rapporter profit. Et si on partage totalement cette intention, leur proposition mérite toutefois discussion. Donc, je résume un petit peu leur proposition qui consiste à créer un institut d'émission détenant le pouvoir de décider une création de monnaie qui serait effectuée par la Banque centrale et une caisse de développement durable qui subventionnerait les investissements jugés nécessaires. Ça, c'est le premier volet. Il y a un second volet qui organise le contrôle de la masse monétaire grâce à des mesures fiscales. et celle-ci serait constituée d'une contribution monétaire assise sur les stocks de dépôts en réserve à la Banque centrale et sur les flux de transactions monétaires. Et puis, reposerait aussi sur une compensation écologique, soit d'une extraction ou d'une importation de ressources non renouvelables, de tout rejet non dégradable dans l'environnement, donc comme une sorte d'écotaxe, comme l'avait proposé Pigou. Alors, première question, quel serait le statut de cet institut d'émission ? Est-ce que ça serait une banque centrale bis ? Ou bien une banque publique, comme le sont déjà la Banque publique d'investissement ou à l'échelle européenne, la Banque européenne d'investissement. Mais si c'est le cas, comment s'harmoniserait-elle avec le nouvel institut d'émission ? Deuxième question, en quoi une monnaie à mission, comme ils le disent, différerait-elle d'un fléchage de la politique budgétaire vers telle ou telle orientation ? L'émission volontaire ne serait certes pas en contrepartie d'une dette, mais il propose que ce soit en contrepartie d'une contribution aux missions du développement durable qui serait inscrite avec ce titre dans les bilans de la Banque centrale. Bon, comptablement, la différence n'est alors que sémantique. Prenons un exemple. Si une région décide de construire un nouveau lycée ou bien de bâtir un bassin de rétention des eaux de pluie pour éviter les inondations, des investissements seront réalisés et des salaires versés. Il faut donc envisager ce que les économistes appellent le bouclage du circuit économique. Et les auteurs soulignent que leur monnaie volontaire serait permanente, qu'elle n'aurait pas à être remboursée, mais ils envisagent d'organiser le reflux de cette monnaie sous forme d'impôts et d'épargne. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de magie de la monnaie. Elle n'a en soi aucun pouvoir. Seuls ont du pouvoir ceux qui la détiennent et ceux qui en maîtrisent l'évolution. Et de là vient la nécessité de rendre à la monnaie son statut d'institution sociale, c'est-à-dire au sens propre d'institution de la société, que le capitalisme néolibéral a eu au contraire tendance à en privatiser la création, la fonction et la destination. Alors les auteurs font un pas important dans ce sens, mais leur problématique gagnerait sans doute à voir dans la monnaie l'équivalent général du travail qui est socialement validé à l'échelle de la société. La transformation de l'argent en capital toujours plus grand passe par le travail et la monnaie symbolise ce rapport social et c'est celui-là qu'il faut transformer. Aussi, le livre de Jézabel Coupé-Soubéran, Pierre Delandre et Augustin Cerciron contient trois points essentiels qu'il faut approuver sans réserve, à mon avis. D'abord, il ouvre une voie de recherche sur la maîtrise de la monnaie, alors que le capitalisme a tendu au contraire ces derniers temps à faire d'elle un instrument technique absolument privé, niant ainsi sa dimension sociale intrinsèque. Deuxièmement, il souligne, ce livre, que la finance dite verte n'a rien pour assurer la transition écologique, elle ne peut pas donc le faire. Et troisièmement, il transforme, il place la transformation de la monnaie dans le cadre d'un processus vraiment démocratique qui engage toutes les sphères de la société. Ça, c'est trois points essentiels qu'il faut approuver sans réserve, à mon avis. Mais il y a un certain nombre de questions cruciales qui restent en suspens, et c'est là-dessus que va sans doute porter la discussion. Première question, laissée en suspens dans le livre, c'est que la première donc porte sur l'analyse qu'on fait du capitalisme, qui est dans ce livre à évacuer en tant que rapport social fondamental entre travail et capital. Donc c'est ce point-là fondamental qui est sans doute à préciser. Aussi, la formule « transformons la monnaie pour transformer la société » devrait être interrogée, c'est leur sous-titre, mais parce qu'il n'est pas du tout sûr que l'émission de monnaie volontaire pourrait endiguer le mouvement de marchandisation du monde, comme ils le disent. Parce que la monnaie n'a pas besoin du capitalisme pour exister. Par contre, le capitalisme, lui, a besoin de la monnaie pour pouvoir la transformer en capital par le biais de la force de travail qu'il emploie. Il s'ensuit, et je terminerai par là, que la transition sociale et écologique n'est pas qu'une affaire de financement. Certes, il faut la financer, mais la transition n'est pas que cela. Elle implique de subvertir complètement le sens et les finalités du travail, le rapport au travail. Mais peut-être changer le travail et chambouler le rapport de force entre les classes sociales sont peut-être la même question. Bien plus difficile que de créer de la monnaie. Et il ne m'appartiendra pas de reprocher aux auteurs d'être sans doute, comme tout le monde, très en recherche sur les stratégies à bâtir pour arriver à cela. Donc rendez-vous demain à l'Université de Bordeaux, Fac de Sciences Éco, Amphi Asselin, à 17h30.
Très bien, merci beaucoup Jean-Marie pour cette chronique et cette invitation donc à cette discussion demain à 17h30 à la fac de Bordeaux, campus Montesquieu. Merci Jean-Marie et à bientôt.
Non, pas campus Montesquieu, hein, ça il porte plus le nom, hein, c'est simplement l'Université de Bordeaux, tout court.
Très bien.
Mais à l'ancien Montesquieu.
Exactement, voilà. Merci Jean-Marie, à bientôt.
Tu restes